Pendant que le révérend Bolingo s'approche pour prier pour le prédicateur, je vais lire Romains 10. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas crié à lui? Et comment croiront-ils à lui s'ils ne l'ont pas attendu? Comment attendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Et donc la foi vient du message que l'on attend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ.
Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous sommes en devant de toi, nous voulons encore une fois te rendre honneur et gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Moment merveilleux parce que c'est le bon temps au cours duquel nous sommes disposés à recevoir ta parole. Entre tes mains, nous abandonnons ton serviteur, révérend Guesser, Seigneur notre Dieu, puisse-t-il utiliser puissamment pour que, mon Dieu, mon roi, il soit un canal que tu utilises pour nous communiquer ta parole de vie. Bénis tout le monde qui est déjà là et bénis nos bien-aimés qui sont en route et qui se dirigent vers ici, Seigneur. Depuis jusqu'à la fin de notre culte, nous avons besoin de ta proximité, de ta présence. Sois au contrôle. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Que la grâce et la paix de notre Dieu soit avec vous tous. Amen. C'est une grande joie pour nous de voir arriver aujourd'hui, le samedi, la 7e séance depuis que nous avons commencé ce séminaire et nous sommes en train d'aller vers la conclusion parce que demain, dans la grâce du Seigneur, nous serons en train de clôturer ces thèmes sur lesquels nous nous sommes entretenus pendant toute la semaine. Et je rappelle que le thème général sur lequel nous sommes en train de travailler, il est intitulé « Pour une église vivante et prospère » et nous regardons la responsabilité des disciples de Jésus-Christ pour l'édification et la construction de cette église vivante et prospère. Hier, dans la méditation que nous avons faite le soir, nous avons parlé de l'unité dans les services à rendre à l'église. Et nous avons montré que être associé à l'œuvre de Dieu, c'est une grâce. Le Seigneur vous associe à son œuvre, c'est une grâce. Et la deuxième chose que nous avons dit, la chose la plus importante alors, était de dire que l'unité, c'est la force de l'Église. La force de l'Église se trouve dans l'unité des membres. Parce que déjà, à partir même de la définition du mot « église », qui vient de « ecclesia », signifie « assemblée des enfants de Dieu ». Ça veut dire que sans unité, il n'y a pas d'église. Si nous sommes divisés entre nous, nous ne faisons pas partie de l'église. Pourquoi l'unité est une caractéristique importante de l'Église? Nous avons insisté sur le fait que lorsque vous lisez Corinthiens chapitre 12, le verset 12 en descendant, Paul dit l'Église fonctionne comme un corps qui est un, mais qui a plusieurs membres. L'Église, c'est un corps. Un seul corps, pourquoi? Parce que nous avons eu une seule vocation, nous avons eu un seul baptême, nous sommes des enfants appartenant à un seul Père. Même si ce corps ici, il y a plusieurs membres. Et donc chacun des membres de l'Église forme un membre du corps de Christ qui est l'Église. Et nous avons dit curieusement, tel que Paul le décrit à 1 Corinthiens chapitre 12, la valeur du membre ne se voit qu'à travers la communion ou l'unité à avec les autres membres. Le texte des Corinthiens dit, si l'œil pouvait dire à une autre partie, je n'ai pas besoin de toi, ça ne pouvait pas bien fonctionner dans le corps là. Un membre du corps ne peut pas dire à l'autre membre, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'en réalité, la valeur du membre du corps n'est pas de l'unité qu'il a avec les autres membres. La main a de la valeur parce que lorsqu'elle veut prendre quelque chose, il faut que les yeux voient. Les pieds ont de la valeur parce que lorsqu'ils veulent marcher, il faut que les yeux voient. Il faut que la tête réfléchisse pour savoir où est-ce que je suis en train de partir. Et c'est la même chose dans l'église. Lorsque nous sommes dans l'église, la valeur que j'ai, la valeur que tu as, dépend de la communion que tu as avec les autres. Et donc, aussi longtemps que tu te déconnectes des autres, tu deviens un membre inutile qui ne peut plus servir et qui ne peut plus contribuer à l'édification de l'ensemble du corps. C'est pour cela que tout membre qui se désolidarise de l'unité et de la communion avec les autres, il cesse d'être un outil et un instrument que Dieu utilise pour sa gloire. La deuxième chose, nous avons dit, il n'y a pas de membre plus important ou plus honorable que d'autres. Et là, nous étions en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, que dans le sens où le Seigneur veut t'utiliser, tu es important. Ça peut arriver que les gens dans la communauté ne voient pas ta valeur. Mais Dieu, qui t'a associé à son œuvre, il t'a accordé le salut, il t'a sanctifié pour que tu sois appelé son enfant. Il est celui qui connaît la valeur que tu as. Et même si tu peux être dans une communauté où personne ne te voit, tu peux être heureux parce que Dieu qui t'a appelé à le servir, il te voit et tu es important pour l'édification du corps de Christ. Mais en même temps, nous avons dit, ceci nous amènerait à nous encourager et à nous poser la question de savoir qu'est-ce que je suis en train de rendre comme service. Être serviteur à l'église n'est pas lié à la qualification intellectuelle que tu as. Être serviteur à l'église ne se lie pas à l'argent que tu as. Même sans argent, même sans études, sans diplôme, tu es utile pour l'église et tu dois veiller à ce que toi-même, tu rendes quelque chose dans l'église. Parce que Dieu t'a mis à part pour qu'à travers toi, il puisse se glorifier et qu'il puisse édifier son église. Il n'y a pas de membre plus important et il n'y a pas de membre plus honorable. Il nous arrive des fois que même quand nous écoutons les annonces, nous commençons à penser que ça, ce sont les autres qui doivent faire. Parce que nous pensons qu'ils sont très importants à cause de leurs moyens peut-être, à cause de leur position sociale. Nous pensons qu'ils sont importants. Mais Paul dit, sur le corps, même les parties qui paraissent être les moins utiles, ce sont des parties qui sont couvertes de beaucoup d'attention parce qu'ils sont des parties aussi utiles. Alors nous avons dit comment y arriver. Comment y arriver si nous voulons vivre l'unité? Comment allons-nous y arriver? Nous avons donné trois grandes choses. Nous avons dit la première chose, si nous voulons vivre l'unité, et si nous voulons que l'unité ou la communion fraternelle soit une qualité dans notre communauté ecclésiale, la première chose, il faut que nous puissions comprendre que nous appartenons à un même Père. Comprenez que vous appartenez à un même Père. Vous avez été nés d'une même naissance spirituelle. Vous avez cessé d'appartenir à telle ou à telle autre famille parce que lorsque vous vous attachez à Christ, vous devenez fille et fils de Christ et vous avez donc un même Père. Et nous avons dit ici, si vous êtes dans la communauté et que vous ne comprenez pas que vous appartenez à un même Père, vous allez vivre beaucoup de conflits, de divisions parce qu'il peut être possible que vous n'appartenez pas à un même Père. Deuxième chose, nous avons dit, ayez l'amour comme valeur. Ayez l'amour comme une valeur. Sachez que la chose à laquelle Dieu vous appelle, c'est l'amour. Quelqu'un nous disait un moment que l'amour, ce n'est pas quelque chose de très facile. Il faut être à côté des gens qui ne sont pas aimables. Et quand nous arrivons à les aimer, c'est là que nous avons l'amour. L'amour des enfants de Dieu nous appelle à aimer même les gens que les autres ne peuvent pas aimer. Aimer même les gens qui ne sont pas acceptables dans notre communauté. C'est pour cela que Jésus a dit, moi je vous dis, il faut aimer vos ennemis. Ça, ce n'est qu'une valeur qui est donnée aux enfants de Dieu. Parce que personne en dehors des enfants de Dieu ne saura aimer son ennemi. L'amour doit être une valeur pour nous comme enfants d'une même communauté. La dernière chose, nous avons dit, il faut que nous apprenions à devenir humbles. Des fois, nous avons échoué à vivre l'unité parce que chacun est resté dans son niveau d'égoïsme. Vous savez que naturellement, Dieu nous a créés chacun à ce qu'on appelle son ego. Vous êtes toujours naturellement avec une certaine position intérieure. Cette position, si vous la maintenez et vous ne voulez pas descendre, vivre une humilité qui vous permet de sortir de là où vous êtes pour rencontrer les autres et même les plus faibles, vous ne saurez pas vivre l'unité dans la communauté des enfants de Dieu. Les conflits et les divisions qui sont dans l'Église sont produits d'un égoïsme et d'un égocentrisme qui se caractérise dans la vie de certaines personnes. Nous devons savoir, bien-aimés, que dans la famille de Dieu, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de grand frère. Nous sommes tous de frères. C'est pour cela que même lorsque nous prions, nous tutoyons Jésus parce qu'il est notre frère. J'ai toujours aimé quelqu'un qui a chanté, il a dit, Jésus est notre frère. Et dans le royaume de Dieu, nous sommes des cohéritiers avec Jésus. Pas parce que nous ne respectons pas Jésus. Mais c'est une grâce que Dieu nous a donnée d'être appelés des frères de Jésus-Christ. Et donc, nous devons avoir ça comme qualité, cette humilité. Paul pouvait dire, ayez à vous les sentiments qui étaient à Jésus. Lui n'a pas regardé à ce qu'il était, il s'est humilié. Il s'est humilié. Bien évidemment, c'était afin de développer une relation particulière avec nous. Cet après-midi, pendant quelques minutes, nous allons nous entretenir sur un thème que nous avons intitulé « La vision missionnaire de l'Église ». La vision missionnaire de l'Église. Nous avons parlé du portrait de l'Église. Hier, nous avons parlé de l'unité dans l'Église. Et aujourd'hui, nous parlons de la vision missionnaire de l'Église. Une Église vivante et stable a une qualité très importante, c'est la vision missionnaire. Cette qualité est de plus en plus en train de disparaître dans nos pensées, mais elle est une qualité très évidente et très efficace pour l'Église qui veut être vivante et stable. Nous lisons dans des textes bibliques, le premier texte c'est Actes des Apôtres chapitre 13, le premier verset jusqu'au verset 3. Et après, nous allons lire à Matthieu, chapitre 28, les versets 19 jusqu'à 20. Actes des Apôtres 13, 1 à 3, je conduis la lecture dans le nom de Jésus. Il y avait en Antioche, dans l'église du lieu, des prophètes et des hommes chargés de l'enseignement. Barnabas, Siméon appelé Niger, et Lucius de Cyrène, Manaen, compagnon d'affaires d'Hérode, les tétrarques et Saul. Un jour, alors qu'ils célébraient les cultes du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit s'est dit, « Réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je le destine. » Alors, après avoir jeûné et prié, et les avoir imposé les mains, ils leur donnèrent congé. Je continue le verset 4 et verset 5. Se trouva ainsi envoyé en mission par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucide, d'où ils firent voile vers Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait également Jean, leur auxiliaire, parole du Seigneur. Le deuxième texte est Matthieu chapitre 28, le verset 19 jusqu'à 20, un texte qui est très très familier. Je vais commencer au verset 18. Jésus s'approcha d'eux et leur adressant ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Parole du Seigneur. La vision missionnaire de l'Église. Toute Église qui se veut vivante et stable est toujours missionnaire. Toute Église qui se veut vivante et stable porte la qualité de la vision missionnaire. Autrement dit, les personnes qui ont été transformées ne sont jamais stables et voient les autres périr. Vous savez, quand je parle de l'Église, je reviens sur la définition de base que nous avions donnée. Nous avons dit l'Église, c'est la famille des enfants de Dieu. Alors ici, c'est que tout le monde qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ, il est devenu membre de l'Église qui est la famille de Dieu. Il n'est toujours pas stable quand il voit les gens périr à côté de lui. Et c'est ça la vision missionnaire. Cette vision qui nous appelle à aller au-delà de nos limites pour que les autres aussi connaissent la bonne nouvelle. Ces gens qui ont été transformés, ils ont une passion ardente pour l'annonce de la bonne nouvelle et pour les âmes qui se perdent. L'évaluation que je vais te demander de faire cet après-midi, c'est de dire, est-ce que je suis sensible quand je vois les gens périr dans le péché ou je suis indifférent? C'est l'examen sur lequel je vais t'amener cet après-midi pour que toi-même tu évalues. S'il t'arrive d'être indifférent pendant que les jeunes garçons sont en train de prendre de l'alcool jusqu'à mourir, jusqu'à affaner à cause de l'alcool, les autres, les jeunes filles aujourd'hui avec ce qu'on appelle mondialisation, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu es stable à voir cela? Ou alors ça t'interpelle souvent quand tu vois quelqu'un dans le péché? Si tu n'es pas sa cible, et que tu crois que c'est normal, il y a un petit souci. Les enfants de Dieu, ceux qui sont transformés, ils ont cette passion-là. Ils ont cette passion vers les âmes qui se perdent. Dans leur prière, ils demandent à Dieu la grâce pour que les uns et les autres connaissent la vérité et reviennent à Christ. Dans leur manière de vivre, même en faisant leurs activités, ils veulent que les autres, lorsqu'ils les voient, ils puissent trouver en eux un modèle de vie qui puisse les avouer et les amener vers le Seigneur. Ça, c'est une qualité des enfants de Dieu et donc une qualité pour l'Église vivante et stable. Au cet après-midi, nous allons répondre seulement à une question. Et quand nous aurons répondu à cette question, nous allons nous arrêter là. La question à laquelle nous allons répondre est celle-ci. Pourquoi cette passion devient ardente ou cette vision missionnaire devient ardente dans une église vivante et stable?
Pourquoi toujours après le salut, ce feu d'annoncer la bonne nouvelle s'active dans la vie de quelqu'un? À tel point que nous disions que si ce feu ne s'active pas, il y a un souci. Pourquoi ça arrive comme ça? Pourquoi dans l'église, nous devrions être des personnes qui veulent sortir pour aller afin d'annoncer la bonne nouvelle vers les autres? Nous allons répondre à trois réponses et après cela, nous allons nous arrêter. La première chose qui active la vision missionnaire dans l'église vivante et stable, ou alors la première chose qui active la vision missionnaire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut écrire dans vos agendas. L'amour pour Dieu. En fait, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous acceptons qu'il marche avec nous, l'amour de Dieu nous presse. Et au fur et à mesure que nous continuons à développer notre attachement à Dieu, notre relation avec Jésus, nous ne sommes pas stables de rester et de voir les autres se perdre dans le péché. C'est une qualité qui entre automatiquement. Ce n'est pas mécanique. On n'apprend pas ça à l'école. On n'est pas demandé à être à la faculté de théologie pour avoir cette passion vers les âmes perdues. Et si on ne fait pas attention, on peut même aller à la faculté de théologie et on y revient, on n'a même pas une passion pour les âmes perdues. Que les gens se perdent et qui ne se perdent pas, ce n'est pas mon problème. Parce que ce n'est pas une qualité mécanique que vous devez avoir. C'est une qualité naturelle des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite à toi, il te dit, tu as le devoir d'aller vers un frère. Tu as le devoir d'aller vers une sœur pour l'amener lui aussi à connaître la vérité. J'ai toujours aimé les psalmistes. Quand vous lisez Psaume 69, le verset 9, les psalmistes dit, le zèle de ta maison me dévore. Il a une passion de rester dans la maison de Dieu. Pas parce que ça dépend de lui, pas parce qu'on lui a communiqué, pas parce qu'on l'a sensibilisé, mais parce que celui qui est à lui est en train de lui dicter un comportement. Et ce comportement ici de l'amour pour Dieu nous conduit automatiquement vers les autres. Ça veut dire la question que tu devrais te poser, est-ce que je suis attiré vers les autres? Et si tu n'es pas attiré vers les autres, il faut encore te demander, est-ce que j'aime réellement le Seigneur? Est-ce que j'aime réellement le Seigneur? J'aime Paul, à un certain moment, il écrit, il dit, venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Je vous ai donné un exemple ici pendant la semaine que j'ai toujours aimé les mamans. Quand la maman a préparé une bonne sauce, tu fais un petit passage chez elle. Elle fait tous les moyens pour que tu restes, pour qu'elle pétrisse et pour toi. Et je vous avais dit la fois passée que si vous voyez une maman insiste que oui, calme tout son, que vraiment ta onge kula ta kido. Vous n'attaquez pas ça, il faut savoir que cette maman a une bonne sauce ici. Parce qu'elle veut que ce qu'elle a comme bien, elle partage avec toi, elle partage avec les autres. Mais habituellement, quand elles n'ont pas de bonne sauce à la maison, elles disent « Mbo geta pemu la moutou ». Même quand elles voudraient faire quelque chose, elles disent « Bon, vraiment, bah, c'est tout ce qu'il y a à Konjala. » Alors que tu es encore là-bas, tu n'es même pas parti, mais « Oulisha tout ce qu'il y a à Konjala pour te dire autrement, il faut que tu partes. Il n'y a pas à faire ici. » Le courage d'aller vers les autres vient du fait que nous sommes contents de ce que nous avons en nous et nous ne voulons pas rester stables aussi longtemps que nous ne l'avons pas partagé avec les autres. Tout celui qui aime Dieu, il sort de lui-même, il va vers les autres afin de les amener à Jésus. Alléluia. Je vais vous donner des exemples dans la Bible pour que je ne sois pas comme si je suis en train de parler d'une philosophie ici. Quand nous lisons la Bible à Jean chapitre 1er, le verset 40 à 51, Nous trouvons ici des frères qui ont rencontré Jésus, et le fait qu'ils aient rencontré Jésus, ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se taire parce qu'ils ont trouvé la chose la plus importante. La première personne s'appelle André et la deuxième personne s'appelle Philippe. Ces garçons, ces hommes, ces papas m'ont toujours intéressé. Quand j'ai lu la Bible, je me suis toujours dit, Seigneur, aide-moi à avoir cette qualité d'André et de Philippe. En réalité, personne n'a dit à Philippe ou à André d'aller appeler les autres. Mais la Bible dit, lorsque André a rencontré Jésus, Philippe lui-même, lorsqu'il a rencontré Jésus, chacun à ce qui les concerne, a constaté qu'il ne serait stable qu'en voyant aussi un de ses frères les accompagner parce qu'ils viennent de trouver celui dont il était dit qu'il viendrait. Ils ont compris que la joie qu'ils viennent de trouver, il ne fallait pas, comme on le dit à la langue maternelle, il ne fallait pas que cette joie se termine en eux. C'est pour cela qu'ils sont partis chercher les autres, parce qu'ils avaient trouvé que c'est important que les autres aussi bénéficient de la grâce que Dieu leur avait accordée. Ainsi, André, il est parti appeler Simon-Pierre, et Philippe, il est parti appeler Nathanaël. Si vous aimez ce que vous avez reçu de Christ, si vous aimez la grâce que vous avez reçue de Christ, avant même qu'on vous dise d'aller évangéliser, vous irez vers les autres et les dire, « Frère, j'ai trouvé le salut. Frère, j'ai trouvé la joie. Sœur, j'ai trouvé et je prie que toi-même tu viennes et que tu trouves comme moi-même j'ai trouvé. » Alléluia. Si nous sommes moins évangéliques, c'est parce que même nous-mêmes, nous ne sommes pas stables à Christ. Et quand tu veux évangéliser quelqu'un, tu dis, « Satan, il y a bien mingi d'amouelese ya nini. » Acha kwanza ni nyama, c'est toi, mais qui la moutoko neko kubiake, on ne sait jamais. Mais si vous êtes heureux, si vous êtes stable dans votre position spirituelle, quand tu vois un frère souffrir dans le péché, tu lui dis, frère, où qu'on agitait sa bourre, ce que tu es en train de faire là, moi, c'est déjà dépassé. Maintenant, j'ai déjà trouvé la joie de vivre. Cette qualité est naturelle, elle n'est pas mécanique, non. L'évangélisation, ça ne serait pas que les gens viennent nous sensibiliser. Vraiment, est-ce qu'on peut aller à Bédéchel? Il y a même des fois où, vous voyez parmi les jeunes, vous prenez, vous voulez aller à l'évangélisation maison par maison. On a fait comme quartier, bah moi, bah chaque fois, pas à man, ils ont disparu. Parce que quand ça devient mécanique, ça devient compliqué. Mais quand c'est naturel, vous allez, non parce que quelqu'un est en train de vous suivre, parce que quelqu'un va vous demander les rapports, mais parce que vous savez que vous portez la bonne nouvelle. Et vous allez à dire, ils sont beaux le pied de ceux-là qui portent, qui apportent la bonne nouvelle. Et même quand vous arrivez chez quelqu'un, même s'il ne veut pas vous regarder, il ne veut pas bien parler avec vous, vous parlez avec assurance parce que vous savez que vous venez avec une bonne nouvelle. C'est pour cela que la bonne évangélisation, ce n'est pas la mémorisation des versets. La bonne évangélisation, c'est le partage de ce que toi tu as reçu de Christ, un témoignage personnel. Les grands évangélistes, ce ne sont pas les gens qui mémorisent des versets. Romains chapitre 3, verset 23. Ça dit quoi? Non. Les grands évangélistes viennent raconter la grâce qu'ils ont reçue de la part de Dieu et ils te disent d'où il était, où est-ce qu'il est maintenant et grâce à quoi il a subi ces changements-là. C'est ça le message de l'évangélisation. Tu n'es pas obligé de faire 5 ans à l'église pour être évangéliste. Tu peux croire aujourd'hui et demain tu deviens évangéliste. Même s'il y a des formations d'évangélisation, ce sont des choses que nous avons pour notre affermissement spirituel. Mais la réalité, c'est que l'évangélisation est d'abord une qualité que vous avez à travers le Saint-Esprit qui habite à vous. Celui qui vous dit, va dire à tel frère qu'il n'est pas bien qu'il reste dans cette position. Il a besoin de connaître la vérité. Quand j'en arrive là, j'ai toujours dit, les textes de Matthieu chapitre 28 que notre communauté a choisi, qui y est toujours sur nos certificats de baptême, ça c'est un texte de... Permettez que je le dise, c'est pas grave, hein, permettez, c'est un texte de faible. Ce sont les faibles qui attendent qu'on leur dise « Allez faire ceci !» Mais les braves sont déjà partis avant même qu'on leur communique. Est-ce que nous avons cette qualité de Pierre, et plutôt de André et de Philippe qui n'attendent pas un mot d'ordre et ils s'élèvent parce qu'ils ont trouvé le Messie, ils ont trouvé celui qui accorde les saluts, ils disent « Nous allons annoncer à nos frères que nous avons trouvé celui qui devait venir. » Il n'est pas stable aussi longtemps qu'il n'a pas annoncé cela aux autres. Quelqu'un nous disait un moment que aujourd'hui les enfants de Dieu, il y a même des égoïstes à l'église. Ils sont égoïstes dans l'annonce de la bonne nouvelle. Même pour te dire comment il a reçu Jésus, quelle est la joie qu'il trouve à Jésus, il reste avec. Alors le frère disait, dans ce monde ici, si Dieu donnait les clés d'entrée au ciel à certaines personnes, certains garderaient même ça dans la poche. Ils attendent, ils y arrivent, ils ouvrent, ils entrent dedans et ils ferment. Que les autres ne puissent pas entrer. Les gens sont tellement égoïstes que même nous sommes égoïstes et nous n'avons pas le temps d'aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Que le Seigneur nous aide. La deuxième chose, la passion d'annoncer la bonne nouvelle ou la vision missionnaire dans l'Église, elle n'est par obéissance à la parole de Dieu. Obéissance à la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans les textes de Matthieu chapitre 28 que nous avons lu. Jésus, après la résurrection, a donné une recommandation claire. Il dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Certaines versions disent, allez, et il utilise l'impératif, allez et faites de toutes les nations des disciples. Cet impératif, ce n'est pas faux, cet impératif, c'est bien. Si tu comprends ça comme un impératif, tu dois comprendre que l'obéissance à la parole de Dieu doit te pousser à sortir de ta maison pour que tu commences à parler de la bonne nouvelle à un frère ou à une sœur. Et quand les gens te demandent pourquoi tu es en train de faire ceci, tu n'as pas de choses à leur expliquer, tu diras mon Seigneur, après la résurrection, il a demandé que la mission qu'il nous laisse sur la terre, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. En évangélisant, je suis en train d'obéir à la recommandation que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à l'Église. C'est ça notre mission et nous devons obéir à cette recommandation-là. Mais alors, quand vous lisez aussi les textes ici en grec, c'est-à-dire dans la langue originale, le verbe « aller » n'est pas conjugué forcément à l'impératif. C'est un verbe qui est conjugué dans le temps que nous appellerions « état continu ». Ce n'est pas comme un état fini qui donne la recommandation qui dit d'aller. Mais la traduction du grec serait plutôt « en allant ». Pendant que vous allez, une manière de dire pour Jésus, partout où vous serez, faites de toutes les nations des disciples. Dans vos démarches et dans tout ce que vous serez en train de vivre, faites de toutes les nations des disciples. Cette obéissance à la parole de Dieu, c'est elle qui fait qu'à l'Église, il y ait une vision missionnaire. Malheureusement, même aujourd'hui, quand nous baptisons les gens, ces gens disparaissent. Les candidats au baptême qui sont là, aidez-nous. On ne vous baptise pas pour disparaître. Parce qu'en réalité, si nous voyons Gomaville dans les statistiques, peut-être si on commençait aux années 2000, tous les gens qui ont été baptisés, s'ils revenaient ici, c'est sûr que certains, bien sûr, ont déménagé, ils sont dans d'autres paroisses. Mais si tout le monde devait venir ici, je m'imagine que l'année 2000 à 2023, Les chaises ici devraient être moins suffisantes. Parce qu'on a baptisé des gens. Chaque année, on baptise des personnes, mais les statistiques de la paroisse ou de plusieurs paroisses, je ne sais pas à Gomaville, mais ailleurs où je connais, vous baptisez chaque année, mais les statistiques n'augmentent pas. Et on s'est dit, bon, peut-être qu'on est en train de baptiser seulement nos enfants, peut-être. Mais normalement, on dirait cette année, ce semestre, on baptise combien? On baptise 24 personnes ou autant de personnes. Et on devrait dire à la diaconie, allez chercher 24 chaises ici. Parce que la communauté vient d'être augmentée d'autant de personnes. Je sais que demain, le pasteur évangéliste en parlera. Il a dit, le Seigneur vient d'ajouter à son église autant. Mais curieusement, les chaises ici vont rester les mêmes. Et ces gens vont s'asseoir où? Ou alors il faut qu'on dise à l'église, tu te baptises, tu viens avec ta chaise. Et comme ça, on va chaque fois vérifier si les chaises ne suffisent plus, si les chaises restent, on dit alors il y a quelqu'un qui a disparu. Imaginez-vous, depuis que nous avons commencé à baptiser, ce temple était plein depuis. Mais le temple reste toujours dans la même logique. Où partent ces gens-là? Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, ça c'est un autre thème d'une autre fois. Mais nous évangélisons, pas parce qu'il y a une force derrière nous, mais parce que nous obéissons à l'appel de Jésus-Christ qui a dit, pendant que vous restez dans ce monde, faites de toutes les nations des disciples. Si quelqu'un ne veut pas être évangéliste, ou il ne veut pas être missionnaire, c'est qu'il ne veut pas, il ne veut pas respecter cette parole de Jésus. Parce que réalité, Matthieu chapitre 28, que nous venons de lire, serait pris pour l'Église comme un cahier de charges. Un cahier de charges pour les enfants de Dieu, c'est dans le texte de Matthieu chapitre 28, là où Jésus est en train de dire, faites de toutes les nations des disciples. Si nous échouons à obéir à cette recommandation, comme Église, nous avons raté notre mission. Notre mission dans ce monde n'est pas de construire des galeries, n'est pas de construire des supermarchés, n'est pas d'acheter de bus de Transville. Non, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, on peut construire un supermarché pour que la bonne nouvelle soit annoncée là-bas. On construit des écoles pour que la bonne nouvelle soit annoncée là-bas. Si vous achetez un bus qui fera des transports dans la ville, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée dans ces bus. L'objectif pour l'Église serait que nous achetons ces bus. Tout le monde qui y entrera, il faut qu'il soit disciple de Jésus. Là, nous utilisons bien notre cahier de charges. Est-ce que nous sommes déjà là? Ou nous avons encore quelque chose à faire? Troisième chose. La vision missionnaire de l'Église est construite sur l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Nous devenons des missionnaires parce que le Saint-Esprit lui-même qui est en nous, il nous incite à la mission. Et l'Église, dans l'écoute du Saint-Esprit, il attendra que le Saint-Esprit a besoin de notre disponibilité. Le Saint-Esprit a besoin de la disponibilité des frères et des sœurs pour que la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde. Le Saint-Esprit nous rend sensibles à des occasions où il nous faut servir Dieu. Le Saint-Esprit, il te rend sensible et il te dit, ça c'est une occasion, parle de Christ ici. Si tu n'as pas cette possibilité d'écouter le Saint-Esprit te parler, tu ne sauras pas que les occasions s'offrent à toi de parler de la bonne nouvelle. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est arrivé dans un restaurant et qui, après avoir reçu le petit pois, il a profité de ce petit pois-là pour commencer à évangéliser. Et la femme, en quittant le restaurant, l'homme avait déjà amené la femme à confesser Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Pourquoi il a réussi cela? Parce que il a compris que ce petit pois devient une occasion pour moi d'annoncer à cette femme l'histoire de Jacob et Esaü. Et à travers cela, je vais les conduire jusqu'à l'évangile, jusqu'à pour qu'ils confessent Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Même dans le monde les musulmans, le Saint-Esprit donne une sensibilité pour que les gens soient en mesure d'annoncer Christ, même là où il n'est pas annoncé. Des occasions, il y en a, le Saint-Esprit nous les donne. Et nous devons être à l'écoute de cet enseignant par excellence, le Saint-Esprit, afin que nous sachions profiter de ces occasions qu'il nous accorde. Le Saint-Esprit nous appelle à agir pour appeler les autres à connaître Jésus. Les textes que nous avons lus dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, le verset 1er jusqu'au verset 3. Le Saint-Esprit, dans la première communauté, il demande que Barnabas et Saul soient mis à part et qu'ils soient envoyés pour une mission que lui-même leur accorde. La sensibilité au Saint-Esprit nous permet de savoir que le Saint-Esprit veut nous voir aller au-delà de nos limites. La sensibilité au Saint-Esprit nous permet de comprendre comme Église qu'il y a des personnes que nous devons soutenir afin qu'à travers eux, la bonne nouvelle soit annoncée. Comme Église, nous devons donc être sensibles à la mission que Dieu nous donne et nous devons savoir que Dieu nous appelle à aller au-delà de nos limites, à aller rencontrer les autres et leur parler de la bonne nouvelle. Pour une église vivante, chaque personne doit avoir une vision personnelle d'évangélisation à cause de ces trois grandes raisons. Chaque personne doit avoir une vision personnelle d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour pour Dieu, parce qu'il obéit à la parole de Dieu et parce qu'il a le Saint-Esprit et il est sensible à la voix du Saint-Esprit à lui. Les chrétiens qui arrivent à l'église et quand ils lui demandent « Qu'est-ce que tu fais à Gomaville ?» te dit « Non, moi je suis parmi les chrétiens simples là-bas. C'est nous qui sommes les chrétiens simples là-bas. » Tu dis « Chrétiens simples ?» Paul dit « L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de faiblesse. Ce n'est pas un esprit qui fait de nous des éléments simples, si je pouvais le dire comme ça. C'est un esprit qui travaille à nous et qui nous amène à servir le Seigneur. » Si quelqu'un est ici et qu'il n'est pas dans aucun service à Gomaville, je veux le rappeler que dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chrétiens simples, comme si on veut dire qu'il y aurait en même temps des chrétiens composés. Non. Il n'y a pas de simples et de composés. Il y a tout le monde, même dans la petite dimension que tu peux avoir, tu es appelé à être serviteur. Et dans les services, la première mission, le premier cahier de charge que nous avons, c'est le cahier d'évangélisation. Tous nous sommes des évangélistes. Je l'ai dit ici, souvent il nous arrive de dire, bon, ça on laisse aux évangélistes. Bon, les évangélistes, on ne sait pas comment ils sont en train de réfléchir sur ça. Les évangélistes et nous autres, nous sommes qui? Femmes et familles, vous êtes des évangélistes. Jeunesse, vous êtes des évangélistes. Diaconie, vous êtes des évangélistes. Pour une église vivante, on devrait dire, aujourd'hui, les gens qui vont aller porte à porte dans les quartiers, Boujovou, c'est la diaconie. Ne vous étonnez pas qu'un communiqué comme ça passe. L'évangélisation peut concevoir des communiqués comme ça. Les codis, mais c'est vous qui allez faire l'évangélisation. Ne dites pas non, la commission d'évangélisation est là pour faire ça. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, il fait de nous, de manière automatique, des évangélistes. Pour l'église locale, comme la paroisse de Gomaville, nous devons aussi avoir un plan d'évangélisation et d'avoir des missionnaires à soutenir dans l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir un plan d'évangélisation et d'avoir des missionnaires. Dans les postes de Goma, c'est déjà bien parce qu'au moins chaque paroisse et jumeler avec une autre paroisse pour faire cette œuvre missionnaire. Mais nous devons aller au-delà. Il faut normalement dans notre plan, dans la grâce que Dieu nous accorde, que nous ayons une rubrique de vision missionnaire de l'Église. Qu'est-ce que nous ferons pour l'évangélisation pendant cette année? Nous allons soutenir quel type de missionnaire? J'ai compris que à un certain moment, les premiers missionnaires qui sont venus nous évangéliser, ils n'avaient pas beaucoup de spécialités. Même quand les Blancs nous envoient des choses ici pour que ça puisse nous aider, Ils font ça comme des œuvres missionnaires, des œuvres d'évangélisation missionnaire, mais ils n'ont pas beaucoup de choses. L'essentiel qu'ils ont, c'est qu'ils se mettent d'accord. Chacun peut donner 3-0, l'autre peut donner 30, l'autre peut donner 100, selon la capacité qu'il a, et après ils vont nous envoyer 5 000 €. Et nous allons beaucoup applaudir, mais en même temps, nous-mêmes, nous sommes capables de donner ça et d'envoyer ça pour que l'évangélisation puisse avancer dans un monde où il y a un besoin ardent. On peut dire ici, chacun donne 1000 francs, 500 francs, 10 dollars, 100 dollars. C'est là que le Seigneur va vous révéler. Faites ce que vous voulez. Si nous faisons cela, vous allez trouver que nous sommes aussi capables d'aller, d'envoyer des missionnaires dans des milieux pour qu'à travers eux, la bonne nouvelle soit annoncée. Nous avons besoin de cette vision-là. Et l'Église vivante doit avoir cette qualité missionnaire, cette passion vers les âmes perdues, cette passion vers ceux-là qui sont en train de souffrir. Il y en a encore dans le monde, ceux-là qui n'ont pas encore reçu le message de la bonne nouvelle. Il y en a encore dans le monde, ceux-là qui ont encore besoin d'être évangélisés. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions sur place. Il nous a sauvés pour que nous allions et qu'à travers nous, nous puissions annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Cette vision, c'est une vision de l'Église. Une Église vivante possède en elle la vision missionnaire, la vision d'évangélisation. Chacun dans son budget, il devrait avoir, comme enfant de Dieu, une rubrique d'évangélisation. Ça peut être évangélisation par les sociales, ça peut être évangélisation par la parole à plein air, ça peut être évangélisation par une autre dimension. L'essentiel, c'est que vous voyez si vraiment à vous, il y a cette vision missionnaire, cette vision d'évangélisation. C'est ce qui fait de vous un instrument et une perle pour le Seigneur. Et le Seigneur, à vous regardant, quand il voit que cela est intérieur et intégré dans votre nature, il se réjouit de ce que vous êtes parce que vous avez compris c'est pourquoi vous êtes sur la terre. Les âmes ne doivent pas se perdre pendant que nous sommes là. Dieu veut nous utiliser comme ses instruments afin qu'à travers nous, la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde et que les gens viennent à Christ et qu'à travers cela, même dans les cieux, la joie soit manifeste. Alléluia. Pendant ce temps, nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ces 3 jours, nous avons parlé de la qualité de l'Église. Nous avons dit l'Église, il y a un portrait d'une Église vivante et stable. Et quand nous parlons de l'Église, nous parlons d'abord de toi comme individu, mais nous parlons aussi de la communauté locale. Ceux qui étaient convertis, ils avaient une unité de cœur, une unité d'esprit. Ils vivaient dans la communion, ils partageaient leurs biens ensemble. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la résurrection avec puissance et ils répondaient aux besoins de chacun selon qu'ils les voyaient dans les besoins. Ceux qui étaient convertis, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ils étaient unis. Et nous venons de dire aujourd'hui, ceux qui ont donné leur vie en Jésus, ils sont motivés à évangéliser. Ils ont une vision missionnaire. Ils veulent envoyer les gens pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Pendant ce temps, je vais t'inviter à prier pour toi-même et t'évaluer personnellement. Est-ce que ces choses sont à moi? Est-ce que j'ai cette vision missionnaire? Est-ce que j'ai cette nature d'unité au corps du Christ? Est-ce que je suis uni au corps de Christ? Ou je suis parmi les gens qui sèment les divisions dans la communauté? Ou peut-être je suis parmi les gens qui sont les moins sociaux de la communauté? Je suis parmi les gens qui s'en foutent. Que la bonne nouvelle soit annoncée, qu'elle ne soit pas annoncée, ce n'est pas d'abord ça ma priorité. Si tu te trouves dans cette dimension-là, tu vas demander la grâce de Dieu à ta faveur. Peut-être que tu regardes la paroisse de Gomaville. Pendant que nous sommes en train de parler, le Seigneur a mis à cœur que nous avons encore besoin de travailler sur cette dimension ici. Si le Seigneur a révélé ce message pendant cette semaine, c'est parce qu'il veut qu'à travers nous, nous puissions porter cette communauté à prière afin qu'elle devienne beaucoup plus vivante et stable. Cette communauté ne sera pas stable aussi longtemps que nous ne sommes pas sensibles à la volonté de Dieu. Et le Seigneur a révélé ce message pendant la semaine pour que nous soyons de ceux-là qui vont prier pour cette communauté.
Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les beaux, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé. En dire l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les beaux, les mauvais jours. À toi, oui, mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais les chemins du calvaire est étroit et périlleux. Cette chemin solitaire, difficile, les ténèbres jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les beaux, les mauvais jours. À toi pour mourir, vivre. À toi, Jésus, pour toujours.
Où est-ce que tu as besoin d'être aidé par le Seigneur? Quand tu regardes ta vie, où est-ce que tu as besoin d'être aidé par le Seigneur pour que tu dises jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons et dans les mauvais jours, je veux rester attaché à toi. Je veux rester attaché à cette parole. Cette semaine, le Seigneur se révélait de manière particulière dans ta vie. Et tu crois que tu as besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, si tu sais que tu as besoin d'être aidé quelque part, je vais te demander de te mettre debout afin que nous puissions prier. Ce n'est peut-être pas parce qu'aujourd'hui tu te dis je donne ma vie à Jésus. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi j'ai déjà donné ma vie à Jésus, mais je crois que j'ai besoin encore de la grâce de Dieu pour que je passe dans une autre dimension, pour que je quitte ce niveau pour un autre niveau de vie spirituelle. C'est ça ta prière ce soir, tu vas te mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu sens que le Seigneur a besoin de t'aider pour que tu avances encore, pour que tu fasses un pas de plus dans ta vie. Tu vas te mettre debout, nous allons prier le Seigneur. Est-ce que tu as besoin de la grâce de Dieu? Ou tu vois que là où tu es, ça va déjà, tu es déjà arrivé, tu crois que ça va? Ce n'est pas à dire forcément que c'est aujourd'hui que tu es en train de dire, bon, je donne ma vie à Jésus. Mais tu dis, Seigneur, j'ai besoin de faire plus. J'ai besoin d'être soutenu pour que je passe à un autre niveau spirituel. Pour que je sois à la hauteur de la grâce que Dieu nous donne lorsqu'il nous appelle à l'appartenir. Est-ce que tu as besoin de la grâce de Dieu? Bien-aimé, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as déjà fait le premier pas, oui, tu es déjà engagé à Dieu, mais tu sens qu'il faut encore un pas de plus. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup, ma sœur. Chers parents, chères sœurs, chers frères, nous allons nous avancer ici devant. Ce n'est pas l'appel de ceux-là qui viennent de donner leur vie à Jésus, c'est l'appel de ceux-là qui disent, Seigneur, renforce notre foi. Permets-nous de faire encore plus. permets-nous d'avancer davantage, que dans notre vie nous ne restions pas sur un niveau seulement où les gens nous voient, nous sommes un peu standard. Il faut que nous soyons à mesure d'aller encore au-delà. Vous allez passer ici devant, nous allons prier le Seigneur. Moi-même j'ai besoin de la grâce de Dieu, parce qu'aussi longtemps que je n'ai pas fini ma marche, j'ai besoin que jusqu'au bout je reste attaché à Dieu. J'ai besoin que jusqu'au bout je reste connecté à Dieu. J'ai besoin que jusqu'au bout je sois attaché à la volonté de Dieu. Vous savez, quand les Corinthiens andraient de dire avec toi mourir et vivre, la mort c'est pas facile, hein? Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour résister même devant la mort. Tu restes en train de témoigner Dieu. Tu restes en train de confesser que Dieu est Christ. Même quand on est en train de te dire, maintenant, le canon est sur ta tête et tu vas mourir. Mais tu dis, Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Bien-aimé, je vais nous demander de regarder ici devant. Nous sollicitons tous la grâce de Dieu afin que le Seigneur nous aide. Que nous soyons de ceux-là sur qui il peut compter quand il regarde ce monde. Il dit, il y a des bien-aimés qui sont engagés et qui sont déterminés à faire la différence. Je vais inviter en ces lieux le pasteur évangéliste et il va prier pour nous. Nous recommander entre les mains de Dieu. Lui qui nous a appelés, lui qui nous a permis de faire le premier pas du salut, qu'il nous aide afin que nous soyons des personnes qui les témoignent jusqu'au bout, des personnes qui restent obéissants et que nous soyons des éléments sensibles de l'Église vivante et stable.
Nous allons prier le Seigneur. Et même nous qui sommes assis, nous avons aussi besoin de la force divine pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Raison pour laquelle je vais demander même à ceux qui sont assis de se tenir debout là où ils sont. Prions le Seigneur. Père céleste et Dieu tout-puissant, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous aimes davantage. C'est une grâce qui a fait à ce que tu nous rassembles dans ces lieux pour que tu nous parles de ta parole. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur. Éternel Dieu, toi qui nous as appelés, tu nous as sauvés, tu nous as lavés par le sang de ton Fils Jésus-Christ, pour que partout où nous serons, que nous puissions être des bons disciples qui amèneront d'autres dans ton royaume par nos témoignages, par notre modèle de vie, Seigneur. Et maintenant, nous voici devant toi parce que nous voulons que tu nous accompagnes jusqu'au bout. Nous ne voulons pas reculer dans la foi, Seigneur, mais nous voulons que ton Saint-Esprit nous accompagne jusqu'à ce que nous arrivions dans ton royaume. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, voici le frère et sœur se tenir devant toi ici à la chair. Mais aussi, voici les frères et sœurs se tenir devant toi ici dans le temple, chacun là où il est. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Nous voulons que tu nous aides, nous voulons que tu nous soutiennes jusqu'à ce que nous arrivions dans le ciel, dans ton royaume, étant toujours debout. Nous ne voulons pas reculer tel que nous venons de le dire, Seigneur. Bénis tout et chacun parmi nous ici. Bénis ton serviteur que tu as choisi parmi nous, afin que par ce canal, nous puissions t'écouter cette soirée, Seigneur. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.